Bonjour, bienvenue à Spot 24. L'exposition que vous allez découvrir, sous la direction artistique de François Gautret, présente les six derniers sports ayant intégré les Jeux Olympiques et leur lien avec la culture urbaine et l'expression artistique. Pour commencer la visite, rendez-vous devant la grande carte située à gauche de la boutique. Parmi les nouveaux sports, cinq d'entre eux ont intégré les Jeux à Tokyo en 2021. Le basket 3-3, l'escalade sportive, le BMX freestyle, le skate et le surf. Le dernier sport date de cette année, à Paris. C'est le breaking. La carte devant laquelle vous vous trouvez présente les différents sites de compétition, à Paris et partout en France. Le lieu dédié à ces nouveaux sports est la place de la Concorde, où l'on retrouvera quatre d'entre eux, le basket 3-3, le BMX freestyle, le skate et le breaking. Les compétitions d'escalade, elles, se dérouleront en dehors de Paris, au Bourget. Et pour le surf, ce sera à Tahiti. Vous pouvez maintenant vous avancer vers l'entrée de l'exposition, sur votre gauche. Avant d'entrer, prenez le temps d'admirer les deux grandes fresques colorées. Elles ont été faites sur place par un duo d'artistes espagnols qui s'appelle Pichavo. Spécialisés en peinture murale effectuée aux quatre coins du monde, ces artistes font ce qu'ils appellent de l'urban mythologie, en mélangeant représentations classiques de divinités et street art. Cette œuvre résume bien l'exposition en faisant référence aux Jeux Olympiques antiques via les statues, ainsi qu'à l'héritage urbain des nouvelles disciplines via les graffitis. Vous pouvez maintenant entrer dans l'exposition. Dirigez-vous sur la droite afin d'en apprendre plus sur le nouveau sport de cette édition des Jeux, le breaking. Le breaking, ou breakdance, les deux se disent, nous vient tout droit des États-Unis et du Bronx en particulier. Dans les années 70, la misère règne dans ce quartier de New York et la violence est quotidienne. Du fait de sa population latino et afro-américaine, le Bronx a une forte culture musicale, entre la salsa, la funk ou le disco. À l'initiative de certains DJ, les jeunes se réunissent dans des jams, de grandes fêtes ayant lieu dans la rue et dansent ensemble afin de se changer les idées. Les B-boys et B-girls, danseurs et danseuses de breakdance, désignent ceux qui, lors de ces jams, dansaient sur les breaks, ces solos de batterie que l'on entendait dans la musique funk et que vous pouvez entendre dans l'exposition. Placez-vous maintenant devant la vitrine présente sur votre droite. Tout à droite est accrochée une affiche originale des championnats du monde de breakdance de 1984. Cette compétition, remportée par le b-boy français Mr Freeze, a marqué l'histoire du breaking car c'est à l'issue de ces championnats que les codes des battles ont été déterminés. Vous pouvez voir que cette affiche a été créée par l'artiste Keith Haring, artiste majeur de l'art urbain. Par ailleurs, une collection de montres Swatch, sponsor de l'événement, a été créée en partenariat avec Keith Haring. Elles sont exposées dans la vitrine du bas. Au milieu, vous pouvez voir une des médailles de l'événement, ainsi qu'une casquette signée par l'artiste peu avant sa disparition. Toujours dans la vitrine du bas, cette fois sur la gauche, vous pouvez trouver une illustration d'un schtroumpf dansant le smurf, réalisé spécialement pour l'exposition. Le smurf est une danse hip-hop des années 80, qui renvoie directement au schtroumpf, smurfs en anglais, car les danseurs s'habillaient tout en bleu avec des gants blancs, comme vous pouvez le voir sur la pochette du vinyle Smurfing Kids, placée juste à côté. Tout à gauche de la vitrine est exposé un ouvrage de Michael Holman, Breaking and the New York City Breakers, relatant l'histoire de ce sport en s'intéressant notamment aux New York City Breakers, groupe pionnier du breaking à New York et dont Michael Holman était le manager. Au-dessus de la vitrine est d'ailleurs affiché un poster présentant quelques figures principales du breaking, effectuées ici par deux danseurs du groupe. Ces danseurs sont habillés sur les photos de manière un peu particulière. Au lieu de porter des vêtements amples, ils sont vêtus de vêtements moulants. Dès leur début, les New York City Breakers souhaitaient faire partie des Jeux Olympiques. Ils portaient donc ce genre de vêtements lors de leur représentation officielle afin de montrer à tous que le breakdance est un véritable sport. Cela s'est confirmé lors des Jeux Olympiques de 1984 qui se sont déroulés à Los Angeles et dont vous pouvez voir la torche sur le pan de mur derrière vous, sur la gauche. Vous pouvez lire sur cette torche, en haut, Siltus, Altus, Fortus, la devise des Jeux Olympiques en latin. En français, plus vite, plus haut, plus fort, ce slogan a été choisi par Pierre de Coubertin afin de souligner l'excellence dans le sport. Le stade olympique de Los Angeles est également représenté sur cette torche. Lors de la cérémonie de clôture de ces Jeux de Los Angeles, les New York City Breakers ont performé, habillés comme ils avaient l'habitude de l'être. Cette performance a été l'occasion de faire découvrir le breaking au monde entier, ce qui a permis sa popularisation, tout en réaffirmant cette envie de devenir une véritable discipline olympique. 40 ans plus tard, cet espoir s'est réalisé et le breaking fait partie des Jeux Olympiques. Veuillez maintenant vous diriger vers le petit renfoncement sur votre droite, où sont exposées au mur des pochettes de vinyle mythiques, dont les breaks, les solos de batterie, ont été utilisés par les beatmakers dans les années 80-90 et ont marqué le mouvement hip-hop. En dessous, vous pouvez voir les platines de DJ Joe, un des DJ et producteurs français qui organisait les Free Jam au terrain vague de La Chapelle, dont vous pouvez voir des photos juste à côté. La Chapelle est un lieu phare pour l'histoire du hip-hop en France et a été l'un des premiers lieux de création et d'expression grâce au Free Jam. Le breaking a connu sa popularisation en France grâce à l'émission Hip-Hop, animée par Sydney et diffusée sur TF1 en 1984. Sur le mur de gauche, l'artiste Kraken est venu peindre une pieuvre géante, en référence à l'une des pochettes exposées. Derrière vous, vous pouvez voir des photos des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en 2018, lors desquels le breaking a été testé pour la première fois en tant que discipline olympique. Rendez-vous maintenant devant le mur d'escalade situé en face de l'espace breaking. Sur la gauche, vous pouvez retrouver la torche des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires, évoquée précédemment, pendant lesquels l'escalade a été testée comme compétition olympique. À l'origine sport de montagne, l'escalade s'est développée depuis quelques décennies comme un sport urbain et peut désormais se pratiquer en salle. Le mur que vous voyez devant vous est une réplique d'une fresque réalisée par Philippe Baudeloc au centre sportif Philippe Auguste dans le 11e et qui décore un mur d'escalade. Cet artiste, graffeur à ses débuts et connu pour ses représentations cosmiques, puise son inspiration à la fois dans les œuvres réalisées sur les parois des grottes préhistoriques, ainsi que dans les recherches scientifiques contemporaines en physique quantique ou en mathématiques. Sur votre droite sont accrochées deux prises d'escalade des Jeux de Tokyo, signées par des athlètes. En escalade, les prises sont de formes et de tailles très diverses afin de recréer ce que l'on peut trouver dans la nature. Ici, vous pouvez même voir les traces de magnésie. Passons maintenant à l'espace BMX juste à côté. Le BMX est un sport extrême divisé en deux catégories, le race, au JO depuis 2008 à Pékin, une course sur piste, et le freestyle, où les riders font des figures, au JO depuis Tokyo. Comme vous pouvez le voir, le BMX, acronyme de Bicycle Motocross, est un vélo de petite taille afin de permettre aux athlètes de faire toutes sortes de figures acrobatiques. Ce vélo a été popularisé dans les années 80, notamment par un film en particulier, E.T. de Steven Spielberg. La scène mythique lors de laquelle le héros transporte E.T. sur son vélo et finit par s'envoler a marqué toute une génération et après sa sortie, le BMX a connu un grand succès. Sur le mur de droite sont d'ailleurs affichées des photos du tournage du film. Devant vous, des vélos sont accrochés au mur. Le vélo bleu tout à droite appartient à Mathias Dandois, multiple champion du monde et grand nom du BMX freestyle en France. Le vélo du milieu est celui d'Anthony Jean-Jean, qui a représenté la France à Tokyo et sera de nouveau notre représentant de freestyle cet été. Derrière vous se trouve l'espace dédié au skate, sport olympique depuis Tokyo, dont vous retrouvez la torche sur la gauche. Cette torche représente, vue du dessus, une fleur de cerisier, symbole du Japon, ce qui explique sa couleur rosée. Le skate date des années 50 et est une planche à roulettes adoptée par les surfeurs qui, lorsqu'ils ne pouvaient pas surfer par temps calme, l'utilisaient pour s'entraîner et reproduire les mouvements qu'ils faisaient sur les vagues. Dans les années 70, la Californie connaît de fortes sécheresses et les skateurs ont l'idée de s'entraîner dans les piscines vides de la banlieue de Los Angeles, dont l'État interdit le remplissage pour économiser l'eau. Cela explique les bowls que l'on trouve aujourd'hui dans les skateparks, directement inspirés de l'architecture de ces piscines. Aujourd'hui, le skate est un sport extrême populaire dans le monde entier, qui s'est imposé comme un art de vivre à part entière, porteur d'une culture unique, de la musique à la mode. À droite de la torche, vous pouvez trouver des pro-modèles d'athlètes ayant fait les Jeux de Tokyo. Les pro-modèles, ce sont des planches au nom des sportifs, dont le graphisme a été conçu pour ou par eux et qui sont parfois dotés de caractéristiques particulières, matériaux spécifiques, formes personnalisées, etc. Sur le mur de droite, vous pouvez retrouver un spot du quartier de Barbès, le skatepark situé sous la ligne 2, boulevard de la Chapelle, dans le 18e. L'auteur, Nicolas Pierre, est spécialisé en miniatures des quartiers populaires de Paris. Le skatepark a ici été reproduit sous forme de fingerboard park rotatif, conçu initialement par Damien Bernadet aux Beaux-Arts de Besançon. Le fingerboard ou fingerskate désigne ces mini planches de skate qui se manient avec les doigts. Artov Popov, l'artiste qui a décoré le skatepark de la Chapelle, est venu ici décorer de la même manière ce fingerboard park ainsi que tout le mur derrière. Cet artiste peintre, poète, graffeur et slammeur a reproduit ici sa signature artistique constituée de 5 sillons parallèles qui correspondent aux 5 lettres de son nom d'artiste. Sur ce mur, vous trouvez également une collection de stickers rassemblés par l'Italien Max Mameli et organisés ici par période. Dans la culture du skate, les stickers ont une place importante permettant aux skaters d'exprimer leur identité et leur créativité. Petit à petit, ils se sont transformés en véritables supports artistiques, arborant des graphismes originaux, des couleurs éclatantes et une multitude de formes. Certains ont même atteint le statut de pièces de collection. Sur l'écran de droite, vous pouvez trouver une animation en stop motion de l'artiste Patagraphe, une technique permettant de créer des mouvements fluides et dynamiques, image par image. Vous pouvez retrouver son travail dans le clip La Quête d'Orelsan. Dirigez-vous maintenant vers l'espace dédié au surf. Sur votre droite, vous pouvez trouver une planche de skate un peu particulière, utilisée pour un relais à travers le monde en 2016. Cette année-là, 8 skaters voyagent à tour de rôle entre l'Espagne et le Japon afin de promouvoir le skate en tant que sport olympique. Comme vous pouvez le voir, une torche est représentée sur la planche ainsi que la liste des villes visitées par les skaters. Le dessus de la planche est abîmé car, en arrivant à Tokyo, les athlètes ont poussé le symbole jusqu'à l'enflammer comme une véritable torche olympique. Passons maintenant au surf. Sport hawaïen ancestral, la forme que l'on connaît aujourd'hui a été popularisée par Duke Kahanamoku au début du XXe siècle. Originaire d'Honolulu, Kahanamoku fut un champion olympique de natation qui, lors des différentes compétitions de nage auxquelles il participait, en profitait pour faire découvrir le surf. Au cours des décennies, le sport a évolué afin de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs voir différents modèles réduits de planches de surf illustrant l'évolution du sport au fil du temps. Dans cet espace, vous pouvez admirer une grande fresque réalisée sur place par l'artiste grec Insane 51. Pionnier de l'art urbain, Insane 51 réalise des œuvres anaglyphes, une technique consistant à superposer deux images de couleurs complémentaires afin de créer un effet 3D. L'œuvre présentée ici représente un surfeur effectuant un canard ou duck dive, action qui consiste à passer sous une vague déferlante afin de ne pas être emporté vers la plage. Le surfeur continue d'avancer jusqu'au line-up où il se mettra en position pour surfer sa prochaine vague. Vous pouvez également découvrir la planche de surf personnelle de l'artiste, également anaglyphe. Sur le mur de derrière, différentes planches sont accrochées. À droite, deux planches d'athlètes américains. La blanche appartenant à Caroline Marks, la plus jeune participante aux épreuves de surf de Tokyo, et la jaune étant celle de Kelly Slater, considérée par beaucoup comme le plus grand surfeur de tous les temps. Sur la gauche, trois planches un peu particulières sont exposées. Réalisées spécialement pour l'exposition par des artistes polynésiens, elles sont purement décoratives et sensibilisent à l'écologie et à la préservation du patrimoine. La planche bleue, en haut, est l'œuvre de Théa, un artiste venant de Polynésie française et alerte sur la nécessité de protéger notre environnement marin. De la même manière, la planche du milieu, réalisée par l'artiste Richard Barry, représente un récif de corail. Minutieusement sculpté, ce récif corallien est blanc afin de dénoncer le blanchiment du corail causé par le réchauffement climatique. La planche du bas, de l'artiste Ravage, également tatoueur, est inspirée par les motifs traditionnels des îles du Pacifique. Elle est faite de fibres de bananier et de sable. Vous pouvez maintenant vous rendre à l'espace dédié au basket 3-3. Ce sport, directement inspiré du basket joué dans la rue, se joue sur un demi-terrain, ne nécessite qu'un seul panier et oppose deux équipes de trois joueurs. Dans cet espace, vous pouvez découvrir plusieurs œuvres. Sur le mur de droite sont exposées différentes photographies présentant un terrain de basket bien connu à Paris, le terrain Dupré, qui se trouve à Pigalle. Ce terrain de basket très coloré a été designé par Stéphane Hachepoul, artiste styliste qui a d'ailleurs créé les tenues de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec ses motifs géométriques, ses couleurs éclatantes et ses dégradés, ce terrain rassemble une communauté variée. Photographes, influenceurs, mais aussi et surtout joueurs de basket, dont des joueurs de la NBA, sont passés à cet endroit. À droite de ces photos est exposée la flamme olympique des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour de 2010, édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse lors de laquelle le basket 3-3 a été introduit. En face, de l'autre côté de l'espace, vous pouvez trouver une collection de sneakers un peu particulière. De l'artiste canadienne Smoluk, elles sont fabriquées en carton recyclé et reflètent la préoccupation de l'artiste pour la consommation de masse et le recyclage. En effet, elles sont destinées aux accros au basket, qui achètent des sneakers par amour de la collection sans jamais les porter, soutenant ainsi une industrie très polluante. Au milieu de ces chaussures est exposé le ballon de basket 3-3 qui a été utilisé pour la finale masculine à Tokyo, qui a opposé la Lettonie et le Comité olympique russe. Ce ballon est plus petit qu'un ballon de basket à 5, mais son poids est le même. Au fond de l'espace, vous pouvez découvrir une œuvre du Diamantaire, un sculpteur français. Depuis 2011, il développe un projet de street art autour du diamant et réalise des œuvres d'art publiques à partir de miroirs usagés. Le panier de basket diamant devant vous, façonné à partir de fragments de verre miroir, symbolise la vision de l'artiste sur le basket 3-3, une harmonie entre l'art et le sport. Au milieu du terrain, le studio parisien Waiting for Ideas, en partenariat avec Trajectoire Studio, a représenté un ballon de basket en ne conservant que ses lignes noires caractéristiques. En vert, l'intrigante structure est à la fois solide et fragile et évoque l'intensité et l'imprévisibilité de la compétition. Pénétrez maintenant dans la nef, un grand espace ouvert dans lequel ont parfois lieu des performances artistiques. Sur votre droite, vous pouvez découvrir une reproduction d'une rame de métro new-yorkais, décorée par l'artiste underground parisien Dudley Slang. Sont diffusés dans cet espace des extraits de documentaires présentant des danseurs du métro, des jeunes performant dans les rames au milieu des usagers. À côté se trouve l'espace e-sport, dont le Comité international olympique encourage le développement sans déroger aux règles et aux valeurs du mouvement olympique. Ainsi, une semaine olympique de l'e-sport est organisée en 2023 à Singapour, attirant 20 000 spectateurs en présentiel. Ici, vous pouvez jouer à différents jeux cultes mettant en scène les différents sports urbains que vous venez de découvrir sur des consoles collector, la NES, la PlayStation et la Xbox version Crystal. Sur le mur face aux consoles, des œuvres de Futura 2000, artiste new-yorkais pionnier de l'art urbain dans les années 70, sont exposées. Son travail est décrit comme une fusion de l'art urbain et de l'illumination et est exposé dans le monde entier. Vous pouvez maintenant vous avancer dans la nef, où vous pouvez découvrir sur la droite le travail de Canty, danseur et artiste français. Canty cherche à saisir l'empreinte et l'énergie des gestes hip-hop en les exécutant sur un support au sol après avoir baigné ses chaussures dans de l'encre. À la façon d'un calligraphe, les formes dessinées par le frottement des chaussures ressemblent à des lettres. En résulte une sorte d'alphabet avec une logique et un répertoire de formes propres. En face sont exposées les œuvres de Léo Caillard, sculpteur dont le style est défini de néo-antique. Jouant de l'anachronisme, l'artiste a représenté ici la Vénus du Capitole et le Laocoon avec des accessoires contemporains. À côté est exposée la torche olympique de l'édition 2024 des Jeux. Designée par Mathieu Lehanner, la torche représente trois choses. L'égalité, via ses deux parties opposées mais complémentaires. L'eau, à travers les ondulations et le jeu de lumière que l'on peut observer sur la partie du bas, et l'apaisement, via ses courbes et son design épuré. Fabriqué en acier recyclé, il n'en existe que 2000 exemplaires, soit 5 fois moins que les torches des éditions précédentes. Juste derrière, vous pouvez découvrir du tape art, forme d'art nouvelle qui utilise le ruban adhésif pour créer des œuvres d'art. Cette œuvre, Urban Olympia, a été réalisée par le collectif Tape Over, et est dédié à l'olympisme, aux athlètes et au sport urbain. L'œuvre est accompagnée d'écrans qui diffusent des témoignages d'athlètes et de personnalités liés aux Jeux olympiques qui évoquent leur spot préféré pour s'entraîner et performer. En face de cette œuvre murale, vous pouvez découvrir un cabinet de curiosités présentant différents objets ayant marqué tout un tas de disciplines urbaines. Vous pouvez notamment admirer un des rollers que Ty Chris a utilisé pour battre le record du monde de saut en longueur en roller en 2011 au Sacré-Cœur. Ou encore une VHS de l'émission de télé Hip Hop évoquée au début de la visite. N'hésitez pas à vous munir d'une des fiches mises à disposition les présentant en détail et à regarder la vidéo présentant toutes ces disciplines. Avant de finir votre visite, vous pouvez découvrir une exposition temporaire. N'hésitez pas à en apprendre plus sur celle présentée actuellement via les cartels mis à disposition. La visite est maintenant terminée. Si vous avez apprécié l'exposition, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur Internet et à en parler autour de vous. Merci de votre écoute et au plaisir de vous revoir à Spot 24.